et la géographie, découvrir des civilisations lointaines. Les livres vont lui offrir ce que ni ses yeux ni ses oreilles ne peuvent lui donner, la connaissance, la liberté et un accès illimité au savoir de l'humanité. De tous les combats menés par Helene Keller, le plus difficile est encore à venir. Désormais insatiable, la jeune fille a décidé de parler. C'est donc un nouveau chemin semé d'embûches qui l'attend car étant sourde, elle ne peut entendre sa propre voix et les sons discordants qui émanent de sa bouche. Et étant aveugle, il lui est difficile d'imiter les mouvements des lèvres des autres. Mais sa volonté est inflexible. Elle veut pouvoir se faire comprendre par tous. Anne Sullivan a entendu parler d'une jeune Norvégienne aveugle, sourde et muette, qui a réussi l'exploit de parler. Elle décide donc d'emmener Helene consulter une éminente spécialiste. Elle se rend à Boston, à l'école pour enfants sourds Horace Mann, pour y rencontrer la directrice, Sarah Fuller. Quelques années après la visite à Alexander Graham Bell, c'est une nouvelle rencontre décisive qui va bouleverser la vie d'Helene. Madame Fuller prend la main de la jeune fille et lui fait sentir les subtils mouvements de sa bouche et les vibrations de sa gorge quand elle prononce un mot. Helene tente tant bien que mal de reproduire les sons, enregistrant comme autant de petites notes de musique une dizaine de phénomènes essentiels qu'elle devra ensuite assembler. Au bout d'une dizaine de leçons, Helene maîtrise quasiment tous les sons de la langue anglaise. Malgré une terrible prononciation, elle se sent muée par un profond changement. « Je ne suis plus muette », réussit-elle à articuler avec fierté. Et la première pensée qui lui vient alors à l'esprit est qu'elle pourra enfin parler à sa petite sœur, qui ne maîtrise pas encore l'alphabet. Dans les mois qui suivent, Helene travaille avec ardeur, perfectionnant sa diction. Elle s'entraîne également à lire sur les lèvres de ses proches, en posant simplement sa main sur leur joue ou le coin de leur bouche. Elle réalise une autre chose essentielle. Elle vient de repousser définitivement les frontières de sa solitude. Keller était aveugle. Aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, elle lit le braille et arpente le monde d'un pas décidé, sans craindre de se heurter aux obstacles, car on lui a appris à avancer, même au risque de se blesser. Elle était sourde. Elle capte à présent les murmures de la vie grâce à ses doigts qui effleurent la surface d'une joue ou se posent sur des lèvres pour en ressentir les mouvements. Elle a même commencé à apprécier la musique dont elle parvient à ressentir les vibrations. Elle était muette aujourd'hui. Sa voix a trouvé le chemin des mots. Et elle est capable de se faire comprendre par tous. Ce miracle fascine les journalistes de toute l'Amérique. Avec émotion, fierté même. Ils suivent et relatent le parcours de la petite Helene Keller depuis des années. Helene n'a pas seulement redonné espoir aux milliers de personnes qui partagent son destin, mais également à un nombre incalculable d'individus confrontés à d'autres formes de handicap. Par son parcours, elle a prouvé que l'on pouvait surmonter ses limites, qu'elles soient physiques ou perçues comme insurmontables. Elle est devenue enfin une héroïne de la nation, incarnant ce rêve américain selon lequel rien n'est impossible. Bientôt, son nom franchira les océans et traversera les siècles. Pourtant, loin de se laisser emporter par cette notoriété naissante, Helene n'aspire qu'à mener une vie simple et indépendante, à devenir une femme ordinaire, autonome et capable de gagner sa vie. Pour elle, comme pour son mentor, Anne Sullivan auparavant, tout commence par l'éducation et notamment l'université. C'est donc sans surprise que par un beau matin, la famille Keller voit Helene pénétrer dans le salon, la démarche assurée, pour annoncer de sa voix encore nasillarde « J'ai décidé d'aller à Harvard. » États-Unis. Les universités coûtent une fortune. Et la famille Keller, qui doit déjà entretenir Anne Sullivan, n'a pas de quoi assurer les études de leur fille. Heureusement, grâce à sa notoriété, Helene peut compter sur l'appui généreux des donateurs et alléger ainsi le lourd fardeau financier. après 4 années d'une préparation acharnée supervisée par l'inépuisable Anne Sullivan, Hélène intègre l'université de Radcliffe, l'équivalent pour fille de Harvard. Nous sommes alors en 1900. Elle a 20 ans. Mais son parcours universitaire s'annonce comme un véritable défi qui va bien au-delà de ce que peuvent connaître les autres étudiants. Du haut de son handicap, Hélène doit maîtriser des matières complexes telles que l'allemand, le latin, le français ou l'algèbre. Dans les amphithéâtres, assise à côté d'elle, Anne épelle sans relâche, mot par mot, ce que disent les professeurs. Anne doit aussi lire tous les livres d'Hélène avant de les lui retranscrire. Malheureusement, peu d'ouvrages universitaires sont accessibles en braille. Enfin, Hélène doit affronter les examens dans des conditions quasi identiques à celles des autres élèves. Sauf que dans son cas, ne maîtrisant pas l'écriture manuscrite, elle doit taper ses réponses à la machine sans jamais pouvoir se relire. Malgré tout, elle réussit brillamment dans de nombreuses matières. Et cette période se révèle être une aventure sociale passionnante. Hélène tisse des liens précieux avec d'autres jeunes filles de son âge, découvrant ainsi la vie étudiante dans toute sa diversité et sa richesse. Admirée pour son immense combat, elle est même nommée par ses pairs vice-présidente de promotion dès sa première année. Elle obtient enfin son diplôme avec distinction 4 ans plus tard. Hélène devient ainsi la première personne aveugle et sourde au monde à obtenir un diplôme universitaire. Exploit, salué avec enthousiasme à travers toute l'Amérique et au-delà. Pourtant, malgré cette reconnaissance éclatante, une ombre ternit la joie de la jeune fille. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, l'université Radcliffe n'a pas un mot pour Anne Sullivan, sa précieuse mentor et guide, dont tous savent que la vue a été irrémédiablement affectée par ces années d'efforts acharnés. Cette ingratitude blesse profondément Hélène, au point que bien des années plus tard, elle en conservera une vive amertume. La douleur que m'a causée cette indifférence ou cette négligence reste une épine dans ma mémoire, écrira-t-elle. D'autant que je ne peux oublier qu'en abusant volontairement de ses yeux à mon profit, Anne a raccourci la période pendant laquelle elle aurait pu voir. Ce sacrifice silencieux, Hélène ne l'oubliera jamais. Peut-être est-ce même là l'étincelle qui forge sa détermination. Une nouvelle page de son destin se tourne et désormais, elle consacrera sa vie à défendre ceux que l'on ignore, ceux que l'on malmène, ceux dont la voix, comme la sienne autrefois, peine à se faire entendre. Tant mécènes et philanthropes se pressent autour d'elle, tous désireux de prendre en charge l'avenir de la petite fille chérie de l'Amérique. Mais à 24 ans, Hélène refuse de dépendre de qui que ce soit. Elle veut gagner sa vie seule. Surtout, elle souhaite passer plus de temps à s'occuper de maîtresse, celle qui lui a consacré tant d'années de sa vie et dont la santé est devenue préoccupante. Les années d'université passées à avaler des centaines de livres pour aider la jeune étudiante ont fini par détériorer gravement la vue d'Anne Sullivan. Les rôles sont inversés. C'est Hélène qui doit à présent veiller sur elle et elle tient à assurer les maigres perspectives d'avenir de son ancienne institutrice au cas où celle-ci devait lui survivre. Liée à vie par un lien profond que plus rien ne saurait briser, c'est tout naturellement qu'elle s'installe ensemble à New York après les études d'Hélène. Malgré la précarité de leur situation, elles engagent une jeune femme pour les aider. Une décision coûteuse, mais nécessaire. C'est ainsi que Polly Thompson entre dans leur vie comme secrétaire et dame à tout faire. Elle ne les quittera plus. Très vite, les fins de mois deviennent difficiles. Pour subvenir aux besoins des 3 femmes, Hélène accepte, dans un premier temps, de donner des conférences. Mais cela ne suffit pas, et malgré elle, la jeune fille accepte de devenir la tête d'affiche d'un spectacle itinérant à travers les États-Unis. Anne Sullivan la suit pour jouer les interprètes. Toutes deux appréhendent cette exposition. Elles ont toujours fui les projecteurs et craignent qu'on ne les moque. Pire, qu'on prenne Hélène en pitié. Contre toute attente, le spectacle est un triomphe partout où il passe, dans la salle. Hélène n'entend pas les ovations, mais elle sent vibrer le sol sous l'enthousiasme du public et des larmes lui montent aux yeux. Elle est rémunérée au-delà de ses espérances et réalise, à l'issue de la tournée, qu'elle a réussi à mettre de côté assez d'argent pour subvenir aux besoins d'Anne jusqu'à la fin de sa vie. Hélène et Anne peuvent enfin souffler, pour la première fois. Un semblant de stabilité s'offre à elle. Hélène accepte un poste au bureau de la Fondation américaine pour les aveugles, une organisation qui œuvre pour l'éducation et l'autonomie des personnes déficientes visuelles en formant des enseignants et en attribuant des bourses aux étudiants. Sa mission principale est de récolter des fonds, une tâche qu'elle prend à cœur, portée par la volonté d'offrir aux autres aveugles les opportunités dont elle a elle-même bénéficié. Mais la santé d'Anne continue de se détériorer et Hélène, accaparée par ses engagements, peine à tout gérer. Pour l'aider dans son travail, elle décide d'embaucher provisoirement un jeune journaliste comme secrétaire. Il s'appelle Peter Fagan et son arrivée dans la vie d'Hélène marque le début d'un chapitre aussi intime que méconnu dans son existence. C'est sans doute l'histoire la plus poignante et la plus tragique de la vie d'Hélène Keller. Peter Fagan a 29 ans lorsqu'il entre dans son quotidien et très vite, une profonde affection naît entre eux, se transformant en un amour sincère et passionné. Ensemble, ils rêvent d'un avenir à deux, un avenir qui brise tous les carcans de leur époque. Car dans la société rigide du début du XXe siècle, une femme aveugle et sourde est considérée comme dépendante, incapable de mener une vie autonome, encore moins d'aimer et d'être aimée. Hélène Keller, en particulier, demeure prisonnière du regard que l'Amérique porte sur elle. Une icône d'innocence et de pureté, figée dans l'image de la petite fille miraculée. Mais leur bonheur est de courte durée. La famille d'Hélène s'oppose violemment à cette union, redoutant qu'un tel mariage ne ternisse son image et ne compromette son engagement philanthropique. Confrontée à une pression sociale et familiale écrasante, Hélène finit par céder et renonce à son amour. Ultime élan de révolte, Peter et elle tentent de fuir pour se marier en secret, mais leur projet échoue. Peter disparaît de sa vie et Hélène restera marquée à jamais par cette séparation forcée. Plus tard, elle confiera qu'elle avait connu l'amour et le désir, mais que la société l'avait privée du droit d'aimer librement. Elle ne se mariera jamais, et entourée de Anne et de sa secrétaire Polly, elle consacrera désormais le reste de sa vie à son engagement pour les droits des personnes handicapées, des femmes et des minorités. Sullivan s'est éteinte le 20 octobre 1936, à l'âge de 70 ans, après un coma dû à un infarctus du myocarde. Hélène était à son chevet, lui serrant la main dans son dernier souffle. Lors de ses funérailles, elle prononcera un hommage bouleversant, reconnaissant tout devoir à celle qui lui a ouvert le monde. Elle était la lumière de ma vie. Anne Sullivan repose aujourd'hui au National Cathedral de Washington, D.C. Un honneur rare pour une femme de son époque. Et à l'automne 2003, elle a été intronisée au National Women's Hall of Fame, une organisation qui honore les femmes pour leur contribution au développement du pays. Après la mort de maîtresse, Hélène traverse une période de deuil profond. Mais fidèle à l'enseignement de son amie et mentor, elle se replonge dans ses engagements. Aux côtés de Polly, sa fidèle secrétaire, elle continue de parcourir le monde pour défendre les droits des personnes handicapées et réunir des fonds. À travers ses conférences, elle réussit à faire évoluer l'éducation et les conditions de vie des enfants aveugles et sourds, contribuant à les faire sortir des asiles psychiatriques où ils étaient relégués. Plus tard, elle fonde Hélène Keller International, une organisation dédiée à la prévention de la cécité et à la lutte contre la malnutrition, aujourd'hui présente dans 22 pays. membre actif du Parti socialiste, suffragette engagée, elle est devenue une figure incontournable de la défense des droits civiques, militant pour les minorités et le droit de vote des femmes. Son engagement la mène à rencontrer des dizaines de chefs d'État, dont Roosevelt, Eisenhower ou encore Kennedy. Elle reçut des mains du président Johnson la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Mais en 1961, Hélène est victime d'une série d'attaques cérébrales. Retirée dans sa maison d'Easton, dans le Connecticut, elle passe les dernières années de sa vie dans la discrétion, entourée de quelques proches et soignants. Elle meurt dans son sommeil le 1er juin 1968, à l'âge de 87 ans. Ses funérailles rassembleront des personnalités du monde entier, témoignant de l'impact immense qu'elle a eu sur plusieurs générations. Ses cendres sont déposées à la National Cathedral de Washington, aux côtés de celle d'Anne Sullivan, celle qui ne l'a jamais quittée. Unies par un lien indéfectible, elles se retrouvent pour l'éternité. L'héritage d'Helen Keller est à la fois immense et universel. Grâce à sa détermination, elle a permis des avancées majeures dans les droits de l'homme, inspirant tous ceux qui luttent contre l'adversité. Mais ces extraordinaires accomplissements n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible d'Anne Sullivan. Ensemble, elles ont ouvert la voie à l'émancipation et à l'éducation, marquant des générations entières. Rendre hommage à l'une, c'est célébrer l'autre, car leur destin et leur combat vers un monde meilleur sont à jamais liés.